Chers auditeurs de Radio Courtoisie, merci de votre fidélité. Nous sommes très heureux de vous retrouver en ce 29 mai, fête de Sainte-Ursule. Cette émission est la voix sur les ondes de l'association Marie de Nazareth. Pour retrouver toute notre actualité, vous pouvez vous rendre sur nos deux sites, mariedenazareth.com pour tout ce qui touche à la Vierge Marie, ou les actions de l'association sur le terrain avec 1000 raisons de croire, je précise 1000 en chiffres, 1000raisonsdecroire.com, qui concerne toute la partie apologétique et surtout qui liste toutes ces raisons de croire. N'hésitez pas à faire connaître ce projet. Alors aujourd'hui, Justina évoquera la Trinité. La Trinité de Dieu signifie qu'en Dieu, il y a trois personnes égales, réellement distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonjour Justina.
Bonjour.
Puis nous aurons Mathieu Lavagna. Bonjour Mathieu. Auteur tout d'abord de « Soyez rationnel, devenez catholique » chez MDN Productions, un très bel ouvrage qui existe en version abrégée et que vous pouvez offrir sans modération, surtout aux jeunes. Et si nous le recevons aujourd'hui, c'est pour son dernier ouvrage « Non, le Christ n'est pas un mythe », libre réponse à Michel Onfray chez Artege en collaboration avec 1000 raisons de croire. Bonjour Mathieu.
Merci.
Attaquons donc dès à présent, Justina, ce sujet bien particulier de la Trinité.
Bonjour, chers auditeurs. Puisque ce dimanche, c'est la fête de la Trinité dans l'Église catholique romaine, je vais en profiter pour parler brièvement, mais vraiment très brièvement, du dogme trinitaire. J'entends totalement que mon intervention est loin d'être exhaustive et complète, car nous manquons de temps et c'est un sujet particulièrement complexe. Je vais aussi vous dire très sincèrement que même moi, je ne comprends pas tout, et même si je le pouvais, et si je pouvais contempler la Trinité, je n'aurais pas les mots pour tout transmettre par la parole. Pourquoi croyons-nous que Dieu est trinitaire et pourquoi ce n'est pas du polythéisme? Eh bien, car, si j'ose le dire, Jésus-Christ nous a posé ce lapin. Allez enseigner et baptiser tous les peuples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Car il y a trois témoins. Mon Père m'a envoyé, je ne fais que qu'en avec le Père, et je vais vous envoyer un autre consolateur, etc. Comment concilier tous ces passages et bien d'autres tout en préservant le monothéisme? Oui, le mot Trinité n'est pas biblique. Oui, le mot comme hypostase et nature ne le sont pas non plus. Mais il faut préserver le monothéisme tout en évitant de charcuter les Écritures ou la tradition. Pour ce qui est affirmatif, nous disons qu'il n'y a qu'un seul Dieu en trois hypostases. Pourquoi le dit-on et comment essayer de le comprendre? Pour cela, tant bien que mal, nous avons développé la théologie trinitaire, la plus complexe et essentiellement apophatique. Apophatique, je le rappelle, c'est la négation. On ne définit pas ce que est le sujet, mais on définit ce qu'il n'est pas. Donc je vais faire de même. Par exemple, beaucoup de personnes disent que la Trinité est inspirée par des traditions non chrétiennes, comme par exemple le Trimurti des hindous. Mais la Trinité n'est pas comparable au Trimurti. Dans l'hindouisme, déjà le mot Trimurti ou Devanagari, ça veut dire trois formes. Et la partie manifeste de la divinité suprême qui se fait triple pour présider aux différents états de l'univers. Les dieux Brahma, Vishnu et Shiva, autrement aussi appelé Rudra, une forme terrible de Shiva, symbolise respectivement la création, la préservation et la destruction. Dans le shivaïsme, ils sont perçus comme des émanations de Shiva en tant que divinité suprême, non manifestée et donc non représentable. Dans la Trinité chrétienne, les hypostases ne sont ni des divinités indépendantes, avec des volontés distinctes, ni des émanations visibles d'une seule divinité. Le terme hindou de Devanagari, trois formes, correspondrait plutôt au modalisme, autrement appelé le sabellianisme, une hérésie condamnée par l'Église qui affirmait que le Père, le Fils et l'Esprit-Saint ne sont que des modus de manifestation. Il serait beaucoup plus simple pourtant d'accepter le modalisme qui peut paraître être une solution parfaite à notre problème. C'est facile à expliquer et à comprendre. Et si nous étions des opportunistes qui copient les concepts païens, nous l'aurions sans doute fait. Mais l'Église n'a pas choisi la facilité. Le modalisme a aussi des failles. Pourquoi seulement trois modus si Dieu est infini? Si le Fils n'est qu'en modus, pourquoi prie-t-il le Père? Maintenant, je vais tenter d'expliquer le terme d'hypostase, que je privilégie davantage, même si depuis le XIXe siècle, on le traduit plutôt comme personne, mais je ne conçois pas vraiment, et voilà pourquoi. Le mot hypostase est emprunté à la littérature grecque non chrétienne, et a été employé pour désigner, donc dans les sources extra-chrétiennes, pour désigner des sujets différents. La brume, le fromage blanc et pardonnez-moi la constipation. Étymologiquement, hypo en dessous, stasis état position. Il s'agit donc d'une substance concrète distinguée en pôle de concentration. Le choix de ce terme est assez prudent. Nous parlons de quelque chose à la fois concentré, mais pas totalement saisissable. Le terme de personne nous vient du latin, qui est calqué sur un autre mot grec, prosopon, littéralement face, figure. Et c'est aussi le mot par lequel on désigne un masque du théâtre grec. Donc le terme de personne est quelque chose quand même de très externe et reste plus dans la catégorie philosophique de l'existence et non de l'être, comme c'est le cas du terme hypostase. Le problème du terme personne est qu'on peut vite tourner encore sur l'idée des facettes, des modus et ainsi finir dans le modalisme. Le dogme de la Trinité n'est donc ni un caprice, ni une trace de syncrétisme, mais une nécessité. Notre Dieu est pourtant seul et unique dans sa nature, mais il n'est pas solitaire en lui-même. Il contient toutes les catégories de l'être. Je, toi, ouais. Nous, vous.
Mais alors, est-ce qu'on peut dire qu'il est comme habité?
Par prudence, je ne le dirai pas. D'accord. Je ne le dirai pas, mais en tout cas, l'erreur n'est pas commettre à chaque fois, c'est de confondre la nature, la physis et les hypostases. Donc, trois hypostases, une physis, une nature. Une nature, effectivement, étant personnelle. Mais il faut savoir que les trois personnes, et c'est là que toutes les analogies, et j'ai volontairement évité les analogies de soleil, rayon de soleil, oui. La chaleur, parce qu'on est encore sur des choses qui peuvent vite virer à du modalisme, et c'est quelque chose de finalement très très virtuel comme simulation, parce que, excusez-moi, nous n'avons pas pu attraper la Trinité et la mettre dans un bocal. Nous pouvons que la supposer avec les données que nous avons et avec quelques témoignages de quelques saints qui, paraît-il, l'ont contemplé.
Oui,
donc je suis obligée de rester dessus et je dois être très prudente dans mon langage.
Merci.
Mais si je passais aussi un petit peu quand même au fondement biblique. Bon, si on lit même l'Ancien Testament, à travers le prisme trinitaire, on peut y trouver des indications implicites. Une des désignations de Dieu dans l'Ancien Testament est le mot Elohim, littéralement Dieu au pluriel, donc D-I-E-U-X. Pourtant, le Dieu de l'Ancien Testament est bien le seul et l'unique. Mais voilà, dès la première phrase de la Genèse, Bereshit bara Elohim, littéralement ça veut dire « au commencement, les dieux a créé ».
Oui.
Et ce n'est pas une erreur, créé au singulier. Dans le récit de la création, donc les exégètes chrétiens voient la création comme une action unique de la Trinité. Et c'est là que c'est intéressant, pourquoi aussi le terme de personne n'est pas forcément adéquat. C'est parce que quand on parle d'une personne, on s'imagine qu'elle a une volonté différente d'une autre personne. Ici, il n'y a pas de conflit de volonté. Le Père crée tout avec sa parole, le Logos, le Fils, l'Esprit vole par-dessus des eaux des abysses. Les trois anges qui rendent visite à Abraham, ils se prosternent devant eux en s'adressant à eux au singulier. Donc on n'aura pas le temps d'expliquer la Trinité de Roublev, mais je vous invite quand même à regarder cette icône. Je tiens juste à vous informer que ce n'est pas une icône qui initialement représentait la Trinité. Son nom d'origine, c'est l'hospitalité d'Abraham.
Ah, effectivement.
Saint André Roublev a repris cette icône en enlevant Sarah, Abraham et les autres plats de la table, en ne gardant que ces fameux trois anges et en ne laissant qu'une seule coupe. Et c'est comme ça qu'il extrapole finalement cette visite des trois anges à Abraham vers le passage de la Genèse où créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc voilà, je vous invite toujours à regarder, il y a des belles analyses, donc je vous invite à les consulter.
Merci beaucoup Justina. Nous retiendrons particulièrement cet énoncé qui m'a touchée. Dieu est seul et unique, mais pas solitaire.
On peut dire ça.
À présent, écoutons Alta Trinita Beata, ce cantique d'un anonyme italien du XVIIIe siècle, du cor slovène sous la direction de Martina Batic.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
À présent, Mathieu Lavagna, comme promis, jeune prodige de l'apologétique qui est d'ores et déjà incontournable et bigrement sympathique. Merci Mathieu de venir nous présenter votre dernier ouvrage de Libre Réponse à Michel Onfray. Non, le Christ n'est pas un mythe. Vous êtes mathématicien, mais aussi apologète, diplômé de l'Institut Angélique et vous n'avez que 25 ans. Vous donnez de nombreuses conférences et si vous souhaitez l'accueillir dans votre ville, écrivez-nous. Je dirais même écrivez-moi car j'ai la chance de les organiser. Donc n'hésitez pas, écrivez à magnificat@mariedenazareth.com. Alors Mathieu, pouvez-vous nous dire ce qui vous a poussé à répondre à Michel Onfray ?
Une question. Du coup, moi, j'ai commencé à lire Michel Onfray il y a quelques années. J'étais tombé sur un de ses livres qui s'appelait Le traité d'athéologie, qu'il a publié en 2005. Et il se trouve que dans ce livre, Michel Onfray manifeste ce qui n'est pas exagéré d'appeler une véritable haine du christianisme, à attaquer l'Église catholique, le Nouveau Testament et le christianisme en général. Et en fait, je m'étais dit que tout cela avait cessé, que récemment, Michel Onfray s'était adouci à l'égard du christianisme. Mais en fait, en 2023, je suis retombé sur certains livres qui viennent de sortir, à savoir son livre « Anima », publié en avril, oui, et enfin son livre « Théorie de Jésus », publié en novembre. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il continuait à défendre exactement les mêmes thèses qu'il y a 20 ans. Il manifeste toujours le même antichristianisme à l'écrit. Et donc, je me suis dit, ça serait bien de faire un livre complet qui réfute toute la pensée de Michel Onfray sur le christianisme, allant de son traité d'athéologie publié en 2005 jusqu'à son dernier livre, Théorie de Jésus. Et donc, j'ai lu l'ensemble de ses livres sur le christianisme et j'en ai fait une réfutation complète, prenant point par point ses arguments pour montrer pourquoi ils ne tiennent pas la route, en me fondant sur les travaux des historiens.
Oui, et cela vous avez quelque peu contrarié et vous nous aviez même dit on ferait mieux de se taire. Donc on va maintenant...
Oui, c'était un petit slogan amusant.
Voilà. Alors, qu'est-ce que la thèse mythiste hein, et comment la réfuter ? Parce que vous êtes très accroché à ça.
Oui, la thèse mythiste, c'est l'idée selon laquelle Jésus de Nazareth n'aurait pas existé historiquement. Oui. Que son existence serait une pure invention conceptuelle qui n'aurait rien à voir avec l'histoire. Et ça, c'est précisément la thèse de Michel Onfray, absolument, qu'il réitère depuis maintenant plus de 20 ans, et qu'il ne cesse de répéter à droite et à gauche dans tous ses livres. Et il se trouve que cette thèse, donc la thèse mythiste, n'est pas du tout soutenue aujourd'hui par le consensus universitaire, par les historiens spécialistes de la question du Jésus historique, qui étudient les sources des premiers siècles, les sources antiques du christianisme. Même les historiens non chrétiens, même les historiens athées, seront d'accord pour dire qu'il y a bien un personnage nommé Jésus de Nazareth qui a existé au 1er siècle et qui a semé le trouble dans le judaïsme du 1er siècle et qui a été condamné sous Ponce Pilate. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel l'ensemble des historiens s'accordent aujourd'hui indépendamment de leurs convictions religieuses. Ce n'est pas du tout des historiens chrétiens qui cherchent à défendre le christianisme qui vous disent ça. Et donc, moi, je me suis appuyé sur des historiens athées dans mon livre pour montrer que voilà, même si on est athée, c'est absurde de nier l'existence de Jésus au plan historique. On a une grande quantité de sources chrétiennes et non chrétiennes qui mentionnent l'existence de Jésus dans les deux premiers siècles de l'Église. Donc parmi les sources non chrétiennes, on en a 9 que j'énumère dans le livre. Oui. Donc on a Flavius Joseph, qui est le plus connu, historien juif du fin du 1er siècle. On a aussi Tacite, qui est un historien romain qui écrit au début du 2e siècle. On a Suétone, on a aussi Lucien de Samosate, Pline le Jeune, Galien, le Talmud de Babylone. On a aussi Cels, qui est un violent polémiste antichrétien du 2e siècle, qui ne remet pas en question l'existence de Jésus. Donc voilà, vous avez une quantité de sources non chrétiennes qui attestent de l'existence de Jésus, et aucune source qui remet en cause son existence historique. Les premiers qui ont commencé à contester l'existence de Jésus, c'est des libres penseurs du 18e siècle en France. Vous voyez, pendant 1800 ans ou 1700 ans, personne n'a osé émettre le moindre doute quant à l'existence historique de Jésus. Même les ennemis, même les juifs, aurait pu se moquer des chrétiens en leur disant bah, « Vous voyez, vous adorez un messie inexistant. » Ils auraient pu réfuter le christianisme comme cela. mais ils ne l'ont pas fait, ils n'ont jamais remis en question l'existence de Jésus. Donc tout ça, c'est une somme d'arguments convergents qui montrent que Jésus a bel et bien existé historiquement. Et en plus de ces sources non chrétiennes, on peut ajouter aussi la quantité abondante de sources chrétiennes. L'historien Gary Habermas fait remarquer que on a 42 sources historiques différentes qui mentionnent l'existence de Jésus dans les 150 ans après sa mort. Donc entre l'an 30 et l'an 180, vous avez 42 sources différentes, à la fois chrétiennes et non chrétiennes, qui mentionnent l'existence de Jésus. Donc il n'y a pas que le Nouveau Testament et les sources non chrétiennes, on a aussi des sources qui sont en dehors du Nouveau Testament, comme le livre de la Didaquée, les écrits d'Ignace d'Antioche, de Clément de Rome, etc., qui mentionnent l'existence de Jésus. Et tout ça, c'est incomparable par rapport aux autres personnages de l'Antiquité. Par exemple, pour Jules César, vous n'avez que 5 sources qui rapportent ses opérations militaires. Et donc, on pourrait dire en cela que l'existence de Jésus est encore mieux avérée que celle de Jules César. Donc, voilà un petit peu ce que disent les historiens aujourd'hui qui travaillent sur la question du Jésus historique.
C'est quand même risqué d'avoir écrit ce livre parce que, il savait bien qu'il y avait toutes ces sources historiques.
Oui, et c'est ce qui est triste, c'est qu'il en traite à peine. Par exemple, dans son dernier livre, Théorie de Jésus, Michel Onfray traite des sources non chrétiennes en une page et demie. Et
Oui.
donc, et sans citer les textes, donc ce qui lui permet de raconter des bêtises en disant, par exemple, que Tacite ne parle pas de Jésus mais de chrétiens. Et quand on lit le texte de Tacite, qui se trouve dans Annales 15:44, eh bien Tacite mentionne explicitement le Christ qui, sous Tibère, fut livré au supplice sous Ponce Pilate. Donc c'est hyper clair. Tacite parle bien de Jésus et Michel Onfray ne cite pas ce texte
Ah oui.
à ses lecteurs. Ça aurait été la moindre des choses de le faire, mais il ne le fait pas. Et alors, pour les sources chrétiennes, Michel Onfray répond que, comme les chrétiens sont déjà convaincus de l'existence de Jésus, comme ils sont déjà biaisés, entre guillemets, eh bien, leurs sources ne valent rien au plan historique parce qu'ils sont déjà très convaincus de l'existence de Jésus. Sauf que ça, c'est un très mauvais argument. C'est pas parce qu'on est convaincu de l'existence de quelqu'un qu'on est incapable de rapporter des informations historiques fiables à son sujet.
Oui. Si je
Donc,
peux me
voilà un petit peu
permettre,
ce que
ce
je
qui
dis.
m'a beaucoup surpris dans le cas de Michel Onfray, c'est que j'ai vu une de ses interventions à une radio, je ne sais pas trop où, j'ai vu cette vidéo, où il était en train de rentrer encore dans ce reniement de Jésus historique, et la personne qui l'a tué lui disait, mais vous vous rendez compte que là, vous êtes en train d'offenser je ne sais combien de millions de chrétiens, oui, bon, ça c'est les chrétiens, on s'en fout, il n'y a que eux que ça les intéresse, c'est ce qu'il essayait de dire. J'ai envie de dire une chose, je ne pense pas que Michel Onfray soit aussi stupide pour ignorer que même si nos amis musulmans ne considèrent pas Jésus comme Dieu, comme le Fils de Dieu, comme le second hypostase de la Trinité, mais il doit être quand même parfaitement au courant que l'existence historique de Issa vaut quelque chose pour les musulmans. Et ce qui, je pense que c'est vraiment, il le nie volontairement. J'ai pas d'autre explication. On ne peut pas être aussi stupide, je ne le crois pas.
Et là-dessus, justement, bah, c'est très intéressant. Il avait dit chez André Bercoff en décembre sur Sud Radio que les musulmans étaient d'accord avec lui sur l'inexistence de Jésus. Il le dit textuellement. Il dit cette thèse mythiste, elle est pas populaire en France, mais les musulmans ne croient rien de tout ça, les hindouistes ne croient rien de tout ça. Et c'est complètement aberrant de dire ça, que tout le monde sait, même les collégiens savent que les musulmans croient que Jésus a existé en tant que prophète. C'est une des croyances de base de l'islam. Et ça en dit long sur la crédibilité intellectuelle de Michel Onfray, parce que lui-même a écrit un livre entier sur l'islam. Donc on devrait s'attendre à ce qu'il connaisse un minimum la religion dont il parle. Et il s'avère qu'il ne connaît même pas une des croyances les plus basiques des musulmans. Donc,
Ouais.
bon.
Alors ça fait partie des affirmations de Michel Onfray que vous avez trouvées choquantes. Il y en a d'autres, n'est-ce pas?
Ah oui, c'est pas que sur la question du Jésus historique que les affirmations de Michel Onfray sont choquantes. C'est à peu près sur tous les thèmes qu'il aborde par rapport à ce qui est lié au christianisme. Donc ça peut être ses attaques contre Saint Paul, quand il dit que Saint Paul est un névrosé, misogyne, masochiste, il l'insulte de tous les termes les plus atroces. Il se moque de lui en disant que c'est un petit chauve barbu. Enfin bref, il passe son temps à attaquer les personnages du Nouveau Testament, mais il s'attaque aussi au Père de l'Église. Il s'attaque au Concile, il accuse les pères de l'Église d'être antisémites, et plus grave encore, moi ce qui m'a le plus choqué, c'est quand il accuse le Vatican d'avoir activement collaboré à la Shoah, et il accuse Pie XII d'être le pape
Oui.
des nazis. Il accuse Pie XII d'avoir été un antisémite notoire et d'avoir collaboré activement avec Hitler au génocide juif. Et
Mais
ça,
personne ne
c'est
le croit,
le
tout le
délire le
monde.
plus.
Oui.
Personne ne croit ça au plan historique. Même les historiens juifs ont remercié Pie XII après la Seconde Guerre mondiale parce que Pie XII a participé à sauver des juifs
Absolument.
pendant le génocide. Et même ça s'est rapporté par l'historien juif Pachas Lapide que Pie XII aurait sauvé des centaines de milliers de juifs pendant la guerre. Il en a accueilli chez lui dans sa résidence privée. Et puis, dans le Vatican aussi, en tant que réfugié. Donc, c'est absolument aberrant. Et puis, même Pie XII, il faut rappeler qu'il avait signé, il avait participé à la rédaction d'une encyclique qui s'appelle Mit Brennendor Sorge, qui est sortie sous le pontificat de Pie XI. Mais Pie XII, à l'époque, avait participé à écrire cette encyclique. Et cette encyclique condamne expressément le nazisme. Et il est dit dans cette encyclique que le national-socialisme est la haine orgueilleuse et que c'est contraire à la doctrine de Jésus-Christ. Donc, comment est-ce qu'on peut accuser Pie XII d'être antisémite alors que lui-même a écrit voilà, des choses contre l'antisémitisme et la persécution des Juifs? C'est totalement aberrant au plan historique.
Bon, alors tout ça mériterait un débat avec Michel Onfray. Est-ce que vous avez prévu quelque chose?
Eh bien, oui, figurez-vous que je lui ai proposé un débat. Donc,
Super.
je lui ai écrit
Oui.
gentiment pour dire bah, bonjour monsieur Onfray, j'ai lu vos ouvrages sur le christianisme et j'ai écrit un livre en réponse à ce que vous avez dit.
Oui.
Est-ce que vous seriez prêt à en débattre avec un modérateur de manière organisée et cordiale? Et il m'a répondu, monsieur, je n'ai aucune bonne raison de vous offrir ce plaisir-là. Donc, voilà, il refuse le débat,
Bon,
je trouve ça assez
bon.
triste, mais je m'y attendais un petit
Et
peu, à vrai dire.
alors, il n'a pas, me semble-t-il, défendu sa thèse lors de différents débats depuis la sortie de son livre, n'est-ce pas?
Il a fait un débat avec un prêtre dominicain
Alors, ce n'était pas un débat,
qui
c'était
était.
un échange.
C'était une discussion,
Oui.
oui, une discussion, parce que le prêtre dominicain n'osait pas vraiment
Oui, le contredire.
rentrer dans sa
Oui.
thèse et l'affronter sur le plan argumentatif. Il y avait une grande timidité de sa part. Et donc, c'est dommage, ce n'était pas un vrai débat
Oui. C'est
formel et structuré.
pas. Effectivement, oui.
Oui.
Alors, Mathieu Lavagna, en quoi votre livre peut-il être utile pour nos auditeurs? Et quelle est la différence entre votre livre et celui de Jean-Marie Salamito, qui a écrit un livre sur un sujet similaire? Je rappelle que Jean-Marie Salamito est historien et spécialiste de l'histoire du christianisme antique.
Oui, c'est ça. Donc, il est professeur à la Sorbonne.
Oui.
C'est un historien chrétien qui connaît bien son sujet et
Oui.
qui avait écrit un livre en réponse à Michel Onfray en 2017. Parce qu'en 2017, Michel Onfray avait publié un livre qui s'appelle Décadence et qui pareil, attaquait le christianisme comme il avait fait il y a 20 ans auparavant. Et donc, Jean-Marie Salamito avait fait un livre de réponse sur l'existence de Jésus et le christianisme des premiers siècles. Mais il s'arrêtait au 4e siècle, il s'arrêtait à Saint-Augustin. Et donc, moi, la différence avec le livre de Jean-Marie Salamito, c'est que j'aborde non seulement la thèse mythiste, mais je réponds aux attaques de Michel Onfray contre l'Église catholique
Oui.
à travers les âges, donc notamment ses attaques sur la patristique antisémite, soi-disant antisémite, contre les croisades, l'Inquisition, l'Église et la science, le soi-disant nazisme de Pie XII, et aussi ses attaques contre Jean-Paul II. Jean-Paul II, il accuse Jean-Paul II d'avoir collaboré au génocide du Rwanda,
Oui,
comme ça,
oui.
sans aucune justification. Donc il y a vraiment plein, plein de bêtises et d'inepties qui sont présentes dans les travaux de Michel Onfray et que j'ai essayé de réfuter une par une de manière structurée. Et donc c'est en cela que je pense que mon livre apportera des éléments supplémentaires par rapport à celui de Jean-Marie Salamito.
Formidable, merci beaucoup. La semaine prochaine, je recevrai Roland Huraud pour son livre Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Je ne sais pas si vous le connaissez. Je pense que vous seriez très heureux d'échanger sur le sujet puisque vous allez dans la même direction. Eh bien, merci beaucoup, Mathieu. Ce fut très intéressant. Nous vous accueillerons de nouveau à la rentrée, si vous voulez bien, lors de la sortie de votre livret missionnaire Soyez rationnel, devenez catholique, qui est un grand succès et que vous allez nous proposer sous une autre version. Je rappelle que vous pouvez tout de même le trouver sur la librairie en ligne mariedenazareth.com, ainsi que la version abrégée qu'on peut offrir aux jeunes qui ont moins l'habitude de lire. Donc, merci beaucoup Mathieu. Bonne semaine, chers amis auditeurs. À dimanche prochain. Au revoir Mathieu. Au revoir Justina.
Au revoir, merci.
Merci, à bientôt. Au revoir.